Merci, bonjour. On va essayer de faire une intervention à deux voix. Enfin, on va pas essayer, d'ailleurs, on va faire une intervention à deux voix que nous avons programmée. Sur cette thématique conflit et controverse et conflit portant sur l'intégration du patrimoine dans les PLU. Une intervention à deux voix avec Pascal Plancher. Je tenterai d'abord d'identifier les différentes controverses et les modalités de conflit liés à la prise en compte du patrimoine dans les PLU. Et Pascal Plancher interviendra ensuite pour traiter spécifiquement du contentieux et du rôle du juge. Alors, il me semble qu'il faut noter d'abord que lorsqu'on a essayé de regarder dans les situations sur lesquelles on a travaillé la question du conflit, du débat, de quoi on parle, qu'il y a plusieurs niveaux de conflit. Donc, il y a certains niveaux de conflit ou de controverses qui sont liés pas spécifiquement au plus patrimonial, mais plutôt au débat sur l'action publique patrimoniale et qu'on retrouve sur d'autres thèmes, sur d'autres types de documents. Un élément. On a trouvé aussi des types de conflits et controverses qui ont à voir avec la fonction même du PLU, de contraindre la propriété, du débat autour du curseur sur la règle, qui ne sont pas spécifiques à la question du patrimoine ou au PLU du patrimoine. Alors, par contre, on va essayer de centrer cette intervention sur ce qui est spécifique donc à notre question, qui est bien la question du patrimoine dans le PLU, même si ces autres niveaux de conflits ou controverses sont présents. Alors, j'ai toujours un problème avec ce dispositif, mais il y a un relais humain qui va. Mais merci. Merci. Donc, de quelle controverse on parle? Il me semble qu'on peut déjà aussi appuyer sur le premier élément et de repartir des débats sur le plus patrimonial au moment de la loi LCAP. Donc, vous savez que dans ce débat entre la première version de la loi LCAP et celle qui a été finalement votée le 7 juillet 2016, on ne va pas revenir sur cette évolution que vous connaissez, mais simplement souligner que l'année 2015 et le début 2016 furent caractérisés par un intense débat sur les différents régimes de protection, sur les conditions qui pourraient permettre aux PLU d'échapper au pouvoir discrétionnaire des maires, sur les modalités de contrôle de légalité par les préfets. Et ce projet de loi avait été interprété par les défenseurs du patrimoine comme une volonté de désengagement de l'État au profit des collectivités locales et comme une perte de l'influence des services du ministère de la Culture. Alors, ces oppositions, vous le savez, étaient portées par des spécialistes du secteur, relayées par de nombreux maires, des grands élus et puis des associations, une forte mobilisation des associations de protection du patrimoine, en particulier celles réunies dans le G20 patrimoine, contre toutes les mesures qui pouvaient être analysées comme une réduction de l'action et de l'influence des services de la culture et un recul par rapport au dispositif antérieur. On peut s'arrêter un peu, alors on va commencer, je commencerai par ça, on peut s'arrêter un peu sur les arguments qui ont été échangés dans ces controverses. Donc le premier argument dont on a déjà parlé, en fait, c'est cette question de l'instabilité et la possible réversibilité des PLU. Dans les arguments des associations et des opposants à la première version, donc cette question est fortement présente. La possibilité d'une révision modifiant les conditions de protection ou même d'une simple modification apparaît comme une des principales inquiétudes et qui cause le rejet de la protection par le PLU. On vient encore d'en parler sur cette question de la stabilité ou de l'instabilité. Un acteur associatif interrogé dans le cadre de notre projet soulignait le risque lié à la possibilité donc de revenir en arrière sur des protections par une simple modification en disant lorsqu'il y a une modification du PLU, il y a un loup. Et derrière, donc évoquant l'incapacité des maires à résister à un chantage à l'emploi, à un projet de développement local. On retrouve ce type d'argument de différentes façons. Hein, c'est cette idée que les maires, les collectivités locales ne pourraient pas résister face à d'autres impératifs sur ceux de la protection. Au total, les opinions se multiplient pour alerter sur le fait que la seule protection par le PLU fait reposer trop de choses sur la volonté politique locale, sur le lien avec un projet urbain. Sur une stratégie pour certains quartiers qui peuvent changer lorsque le pouvoir municipal change. Et on vient encore de dire que cette question peut se poser et peut se poser massivement, très prochainement en France. Alors, une autre inquiétude souvent pointée, confirmée d'ailleurs par les conclusions de notre recherche, était traiter l'inégalité des communes face en termes de capacité à faire ou de capacité à faire faire des inventaires, des études préalables. Ce qui est possible pour les grandes communes, on l'a dit, n'est pas forcément possible pour les petites communes, même si les agences d'urbanisme et dans certains cas les PNR peuvent jouer le rôle de diffusion des savoirs et des pratiques. Alors, il y a un autre élément qui est souvent pointé aussi et dont on a reparlé, c'est cette idée du risque de perte des dispositifs dédiés. La protection par le plus inquiète aussi parce qu'elle serait le signe de la dissolution des dispositifs dédiés qui sont vus comme l'objectif supérieur, en quelque sorte, dans une stratégie patrimoniale. Certains soulignent aussi, on l'a rappelé déjà au cours de ces journées, donc les temporalités différentes, la qualité et les précisions différentes des études, et considérant que les dispositifs dédiés, type AVAP ou ZPPAUP, non seulement étaient un type de protection différent, mais aussi permettaient un savoir sur le territoire et de constituer des inventaires beaucoup plus précis. En fait, au total, donc, si on voit le point suivant, il me semble que parmi ces débats, la principale controverse, elle est autour de cette question entre décentralisation et l'idée que l'État serait le seul garant légitime de la protection. Donc cette question, elle est présente déjà dans les débats qu'on a eus ces jours-ci. Donc alors que cette réforme pouvait être lue comme une poursuite de la décentralisation de l'urbanisme et une libération des collectivités locales d'une forme de tutelle de l'État, on a peu d'arguments et peu d'acteurs qui sortent différemment, enfin qui prennent des positions publiques pour défendre directement cette position. Martin Malvy, président de l'Association nationale des villes et des pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé, demanda fortement le maintien de l'État. Donc si on analyse les débats au moment du débat sur la loi dans la commission culture, en particulier du Sénat, donc Martin Malvy et d'autres demandent fortement, donc soit devant cette commission, soit dans un article du Monde là que je cite, ils disaient directement les règles ne peuvent être que nationales. Seul l'État central donc apparaît comme un garant acceptable. Alain de la Brestèche, qui est ici peut-être encore aujourd'hui, qui était ici hier, donc représentant du G8 patrimonial devant la commission culture du Sénat, déclarait « Nous vous demandons, nous vous supplions soit de revenir au régime des AVAP, soit de donner un contenu au plus patrimonial en conférant une certaine place à l'État. » Et donc la façon de donner une consistance patrimoniale au plus, elle est toujours dans cette invocation d'une place de l'État. Yves Doge, que je ne présente pas ici, devant la même commission culture, proposa d'intégrer un garde-fou en instaurant un avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et même une possibilité d'appel devant la commission nationale sur le contenu du plus. Donc dans les déclarations, dans les articles de presse, on retrouve clairement ce type de position dans les entretiens aussi que nous avons menés, donc domine l'idée que la question de l'ambition et de la protection patrimoniale devait être posée comme, ou semblait posée comme une opposition entre les services centraux de la culture ou leurs représentants locaux fortement protecteurs du patrimoine, et puis des pouvoirs locaux susceptibles de brader le patrimoine au bénéfice des projets immobiliers et du développement local. En fait, tout se passe comme si la belle formule proposée par Marie Cornu et Noé Wagener, ici présents lorsqu'ils essayaient de caractériser l'histoire officielle du patrimoine au 19e et au début du 20e siècle, était encore valable pour décrire les controverses contemporaines. Il soulignait que cette histoire mettait en scène, et là je cite, donc l'héroïque combat d'une administration savante confrontée à une France sans cesse prise de fièvre vandale. Alors, on pourrait soumettre au débat, donc savoir si on en est toujours là dans cette histoire officielle du patrimoine. En tout cas, il me semble que ce schéma très répandu dans les argumentaires, évidemment, vous le savez, vous le vivez, qui assimile État et protection, et d'un autre côté, donc, collectivité locale et possibilité de brader le patrimoine, il doit être relativisé, il ne correspond pas vraiment à la réalité, il doit être complexifié à plusieurs niveaux. Alors d'abord en prenant en compte les tensions et les oppositions, bien sûr, au sein des administrations, mais aussi en soulignant qu'il existe des cas dans lesquels une forte volonté de protection et de mise en valeur portée par des autorités locales peut être freinée ou considérée comme non pertinente par les services de l'État. Sur le premier point, les travaux des historiens des politiques patrimoniales, et en particulier ceux d'Isabelle Bacouche, mais d'autres travaux que vous connaissez aussi, ont montré que l'intensité des luttes internes entre les administrations centrales, la faiblesse des administrations patrimoniales face aux besoins de l'urbanisation et de la modernisation. On peut lire les vicissitudes de la protection du patrimonial comme une perte d'influence de l'administration de la culture face aux services de l'urbanisme rattachés aujourd'hui au ministère de la Transition écologique. Yves Doge, donc bon connaisseur des tensions au sein de l'appareil d'État, toujours devant la commission culture du Sénat, évoquait une bataille frontale entre les deux ministères. Alors même si d'autres interprétations existent, on l'a dit ici dans des questions et dans les échanges, hein, puisque certains interprètent la première version de la loi LCAP comme une volonté de retrait du ministère de la Culture. Donc on a à la fois ces interprétations et puis une position d'un acteur associatif qu'on interviewait dans notre recherche qui disait « L'État voulait partir, nous l'avons retenu par ses basques ». Donc le problème du rapport à l'État et protection, il est complexe. Alors il faut rappeler aussi des situations que vous connaissez, mais le cas emblématique de la ville de Paris qui, lorsqu'elle a souhaité multiplier les protections par le plus dans les années 2005-2009, suite à un processus de participation conduisant à protéger 5000 biens, a déclenché l'opposition du ministère de la Culture qui considérait que les instruments dédiés étaient préférables et ou du préfet qui a donc fait un recours qui a argumenté la trop grande affectation à la propriété sans justification suffisante. Le tribunal administratif donna raison à la ville sur l'identification des biens, mais lui demanda de reculer sur la volonté de protéger les intérieurs. Alors bien sûr, il s'agit d'un cas particulier lié aux tensions entre Paris et l'État dans le domaine de l'urbanisme et du patrimoine, mais qui nous rappelle qu'il existe aussi donc des volontés de protection du patrimoine en dehors des services de l'État, en particulier dans les grandes villes, et qui peuvent se voir d'une certaine façon, et qui peuvent s'opposer dans un rapport qui n'est pas celui que j'évoquais tout à l'heure entre État, collectivité locale et protection. Rappelons aussi cette évidence qui a été tout à l'heure rappelée par Arnaud, que les documents d'urbanisme que nous avons analysés constituent bien le support de volonté locale de protection ou de valorisation d'éléments du patrimoine qui, jusque-là, n'avaient pas été considérés comme significatif dans des protections dédiées, puisqu'il s'agit bien de l'apparition d'un nouveau ou de nouveaux patrimoines. Les débats actuels qu'on a aussi évoqués sur le rôle de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui doit approuver donc la création des sites patrimoniaux remarquables, montrent qu'il existe une autre possibilité ou une autre question ou d'autres façons une autre controverse qui semble émerger, qui est celle de la définition des espaces. Qui est celle de la légitime définition ou du débat entre la qualité des espaces qui mériteraient d'être sites patrimoniaux remarquables. Il existerait la possibilité d'un traitement malthusien des dossiers par la Commission nationale, on l'a évoqué, et que ce traitement malthusien puisse limiter les volontés locales de protection et d'affichage des documents dédiés ou les renvoyer vers le plus, ce qui était pensé comme la garantie de la stabilité de la protection des espaces patrimoniaux pourrait devenir un frein à l'extension patrimoniale ou à la trajectoire de patrimonialisation voulue par certains espaces dans les collectivités locales. Qu'en est-il du plus ou de la trajectoire qu'évoquait Arnaud tout à l'heure aussi? Si le plus, c'est quelque chose qui doit amener ensuite vers une protection plus forte, si cette possibilité d'aller vers la protection plus forte n'existe plus, donc la trajectoire patrimoniale serait remise en cause. Et cette controverse peut aujourd'hui se placer avec des mots assez durs. Arnaud disait tout à l'heure, le ministère de la Culture étouffe, je crois que tu as dit, étouffe la protection. Alors, on pourrait discuter encore une fois sur cette question-là, mais juste pour montrer qu'il y a là une possibilité de controverse, en tout cas d'analyse ou de complexification dans cette idée un État protecteur ou des services de l'État protecteur et des collectivités locales qui ne le seraient pas. En fait, mais c'est évident, vous le savez et vous le vivez aussi, on ne peut pas analyser les choses comme ça. Il faut bien parler d'un réseau d'acteurs, d'une coalition pro-patrimoine ou d'un champ patrimonial multiniveau dans lequel certains membres de l'administration centrale et des concentrés, des associations, des élus locaux, des services techniques qui sont ou des spécialistes qui sont aussi dans les collectivités territoriales poussent une politique pro-patrimoine et qui s'opposent à d'autres groupes ou à d'autres situations. Alors, je dirais deux mots la figure ambiguë de l'ABF. Vous savez que donc il y a dans la salle des personnes qui ont une formation d'ABF, d'autres qui exercent comme ABF. Mais vous savez que ces controverses en France sur les relations et sur la place de l'État se concentrent sur le débat aussi sur la figure de l'ABF, figure ambiguë parce que les acteurs locaux peuvent à la fois dénoncer les modalités de décision, de certaines décisions perçues comme discrétionnaires, mais en même temps se réfugier derrière la figure de l'ABF pour maintenir des niveaux de protection élevés, susceptibles de susciter des oppositions des propriétaires. Alors il y a un débat ample. Vous savez aussi que les pratiques et les évolutions récentes tentent d'introduire plus de collégialité dans les avis, d'introduire des dispositifs de médiation, de renforcer les politiques de recours. Mais donc, retenons, au-delà de ces débats que vous connaissez, retenons la possibilité, ressent l'idée que on ne peut pas simplement parler du plus et de sa protection, que le plus n'est qu'un élément dans la superposition de différents documents et de différents types d'interventions sur la ville, de différents régimes de protection, et donc que les relations que chaque étude de cas ou que chaque situation qu'on a analysée, en fait, on doit prendre en compte la qualité des relations entre les acteurs responsables de ces différentes modalités de régulation, qui peuvent être dans certains contextes plus ou moins coopératives ou plus ou moins conflictuelles. Et donc ça, c'est un élément aussi important. Ce travail, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'acteurs sont très conscients et de plus en plus conscients de cette idée qu'il est important de travailler sur la qualité des relations entre les acteurs qui interviennent, soit dans le cadre de la mise en place qui interviennent localement, soit dans le cadre de la mise en place d'un document particulier, soit dans le cadre de types de relations formelles ou informelles qui peuvent dépasser un document particulier. Donc si on passe au point suivant. Donc là, j'évoquais des controverses, mais on peut aussi essayer de se pencher sur l'existence de conflits, c'est-à-dire de situations d'opposition reconnues comme des conflits par les acteurs, donc pas simplement des échanges d'arguments, mais des situations qui peuvent être présentées comme conflictuelles. Alors, je ne traiterai pas ici du contentieux que Pascal Plancher traitera tout à l'heure, mais on peut essayer de réfléchir sur quel type de conflits dans nos situations sont présents. Donc si on appuie sur le point suivant, donc, on a d'abord des conflits ou la possibilité de conflits entre différents objectifs au sein du PLU qui peuvent être portés par des personnes différentes. Des débats entre les acteurs locaux portant sur des arbitrages entre différents objectifs, certains domaines ou entre différents domaines d'intervention, protection du patrimoine, développement économique, densification, intervention sur les quartiers anciens dégradés, mesures liées à la politique énergétique. Enfin, vous savez aussi, donc, et on l'a noté, que le PLU est un espace de synthèse, mais c'est aussi un espace de débat. Alors, selon les enjeux locaux, les contextes locaux, ces débats peuvent être plus ou moins présents au moment de la réalisation du PLU. Des tensions, des rapports de force sont souvent identifiables entre différents services, entre différentes communes ou différents élus dans le cadre d'un PLUI. Alors, ces conflits sont parfois évoqués, ils sont difficiles à retracer pour nous sous forme de recherche parce qu'en fait, ils font souvent l'objet d'arbitrages internes plus que de débats publics et les procédures d'information et d'enquête publique ont en général peu de prise sur la réalisation des documents ou sur ces arbitrages qui sont faits en amont entre les acteurs qui prennent en charge la réalisation des PLU. Alors rappelons aussi qu'au moment des débats sur la loi LCAP, certains acteurs soulignaient le risque d'une hiérarchisation entre les différents objectifs au sein du PLU, on en a reparlé ici, le patrimoine pouvant passer en second plan derrière des objectifs de densification, de développement durable ou économique. Alors cet argument d'ailleurs peut être retourné dans certains de nos entretiens, par des personnes qui soulignent l'intérêt justement du PLU comme un document et seul document capable de faire une synthèse entre les différents objectifs au niveau local, alors que les documents dédiés ne peuvent pas le faire et ne le prennent pas en compte et n'annulent pas d'ailleurs ces tensions entre différentes dynamiques urbaines. Et donc le PLU serait un espace de synthèse permettant justement de penser à la fois la question du patrimoine dans un projet de développement pour la ville, mais aussi avec en tension avec les autres objectifs locaux. Alors, si on présente le point suivant, il y a aussi des conflits liés, et on en a parlé un petit peu ici, directement à l'identification et à la protection du patrimoine dans les PLU. Alors, au moment de la conception d'un PLU, des positions différentes peuvent apparaître, certaines portées sur la place publique par des associations, qui concerne le type de construction, les éléments à inclure ou à exclure. Pendant l'enquête publique, sous la forme de contentieux. C'est aussi le degré de l'ambition patrimoniale ou la transparence des procédures de sélection qui peuvent être questionnées. Et le cas d'Angers est à cet égard significatif, mais je ne reviendrai pas sur cette question-là qui a été amplement travaillée par Arnaud. Alors, il existe une autre possibilité de conflit au moment de l'identification, qui est cette idée que lorsqu'on élargit la question de l'identification, lorsqu'elle n'est plus dans la main de spécialistes, lorsqu'ils ont recours à des valeurs patrimoniales bien codifiées, lorsqu'on prend en compte donc des positions différentes, lorsqu'on prend en compte des positions de non-spécialistes ou de non-spécialistes du patrimoine, il y a d'une certaine façon une réouverture du débat sur les valeurs patrimoniales et souvent l'ancrage de positions dans des considérations esthétiques et mémorielles qui peuvent être potentiellement conflictuelles. Des conflits portant donc sur l'inclusion ou sur la non-inclusion de certains éléments peuvent révéler des oppositions entre des acteurs qui ancrent leur position dans des valeurs différentes liées à l'aspect ou au sens donné à certaines constructions. Et là, on peut avoir le consensus au sein des spécialistes de la question patrimoniale sur les valeurs à prendre en compte, à identifier, qui peut être remis en cause, ou en tout cas reposé sur la place publique au moment de processus d'identification qui peuvent être plus ouverts. Un autre élément qu'on a identifié et qui, dans certains cas, fait du débat ou du conflit, c'est cette idée que l'identification est perçue comme devant permettre une nécessaire protection. C'est une tension et une tendance généralisée qui conduit à assimiler par les acteurs associatifs ou par des spectateurs du processus de réalisation du PLU, donc à assimiler identification d'éléments intéressants dans un PLU et nécessaire protection. Les documents d'urbanisme réalisent donc aujourd'hui des études, on l'a montré, qui sont parfois couplées à des procédures d'inventaire, qui peuvent construire des typologies d'éléments à identifier. Or, ces éléments ne sont pas tous concernés, dans tous les cas, par des prescriptions empêchant leur destruction ou leur altération. Certains documents n'introduisent que des recommandations ou identifient des éléments comme caractéristiques de sous-ensembles urbains. Dans ce contexte, des associations peuvent tenter de plaider pour la mise en place de protections sur tous les éléments identifiés. Et ces éléments identifiés peuvent être un appui justement pour ces demandes de protection où des associations ou des groupes peuvent pointer une sorte de non-cohérence de l'action publique locale puisque celle-ci identifierait des éléments sans chercher vraiment à les protéger. La simple mention d'intérêt peut donner prise à des demandes de maintien à l'identique alors que la collectivité donc, est libre, on l'a montré, de réglementer ou non les patrimoines qu'elle a listés. Ça peut donner lieu à des dénonciations pour incohérence entre les déclarations et les protections réelles ou même pour, comme l'évoquaient Arnaud et Mathieu dans le film, une sorte de greenwashing patrimonial ou d'héritage washing les deux termes ont été utilisés ici. Donc, par ailleurs, certains acteurs peuvent utiliser comme argument pour s'opposer à des démolitions l'identification d'immeubles non protégés par d'autres procédures d'inventaire qui ne sont pas celles du PLU, qui peuvent être celles de l'inventaire ou des labellisations ou d'autres processus de labellisation non normatifs par des inventaires associatifs qui peuvent donner prise à des demandes de maintien ou d'insertion dans les documents d'urbanisme. Alors, soulignons aussi le dynamisme de ces processus d'identification participative qui peuvent se multiplier, mais qui peuvent avoir aussi un aspect pour les participants, un aspect ambivalent, puisque à partir du moment où on demande aux gens ce qu'il faudrait inclure dans un dispositif d'identification, ils peuvent faire une expérience ambivalente qui est justement d'être à la fois écoutés sans forcément que leurs propositions soient prises en compte, et ils peuvent ensuite protester contre la non prise en compte de leurs propositions ou pour l'impossibilité donc de ce dispositif d'identification participatif à peser sur les choix réels qui ont été mis en place. Alors, le point suivant donc évoque la question des conflits liés, qui est celui qu'on évoque le plus souvent, conflits portés par des associations contre des projets. Donc Pascal Plancher traitera plus spécifiquement de ces questions de contentieux, mais signalons que des acteurs associatifs, des associations de riverains ou de protection du patrimoine portent des recours contentieux contre les documents d'urbanisme, contre des projets, de modification de l'existant, contre des autorisations de construction neuve ou contre certains partis pris architecturaux. Pour les associations mobilisées, le recours au juge n'est qu'un des éléments dans une stratégie d'opposition qui implique d'autres formes de pression, la présence dans les médias, la présence dans des réunions de participation, le recours à la presse, parfois la manifestation ou la pétition. Et donc, dans certains cas, se rejoue sur la scène du plus un nouvel acte de lutte patrimoniale locale plus ancienne ou même de lutte ou d'opposition politique à l'échelle locale. Alors, on observe une grande diversité des acteurs associatifs mobilisés, depuis l'association généraliste locale, avec éventuellement conseil d'une association nationale, jusqu'à des associations de quartier prenant en compte un patrimoine, ou pardon, des associations de quartier ou d'autres associations qui s'intéressent à un patrimoine spécifique, petit patrimoine ou patrimoine industriel, par exemple. Une intervention hier nous a montré aussi qu'il y a des groupes mobilisés spécifiquement sur ces questions. Donc, dans un contexte de non-stabilité, du plus, on l'a évoqué, donc la vigilance des associations s'exerce en particulier contre ce soupçon de tout retour en arrière, et les associations auraient un rôle important pour mettre en œuvre cet effet de cliquet qui n'existe pas, mais qui rendrait plus compliqué néanmoins à l'échelle locale de revenir en arrière sur des choses qui ont été annoncées, simplement parce qu'elles ont été annoncées et qu'elles existent comme une référence sur quelque chose qui avait été inscrit auparavant. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question des solutions qui sont proposées ou qui sont évoquées dans les débats pour sortir des situations de conflit. Alors, non pas parce que j'ai une solution pour éviter les conflits, sinon ça se saurait. Mais donc, je ne traiterai pas ici non plus des questions de sécurité juridique des documents qui seront abordés par Pascal. Mais dans les débats, il y a un certain nombre de positions néanmoins qui reviennent souvent sur cette question de comment éviter les conflits. Donc, le premier point, ça serait l'idée qu'il faudrait renforcer la capacité du PLU à offrir de la prévisibilité sur les mutations du tissu urbain. On retrouve dans les entretiens qu'on a réalisés avec des acteurs l'idée que l'acceptabilité de la règle d'urbanisme exprimée par le PLU est directement liée à la clarté de son expression et donc à sa prévisibilité. Que les éléments identifiés au titre du patrimoine doivent faire l'objet d'une protection ou en tout cas d'un destin clairement présenté par le document, mais aussi de limiter donc ces possibilités de tension entre ou d'accusation d'incohérence entre identification et action qui est mise en place à la suite de cette identification. Il s'agirait donc de renforcer la capacité du PLU à offrir des sécurités aux résidents sur les effets des dynamiques urbaines sur le tissu urbain et donc prévisibilité sur le devenir de la ville. Alors, le point suivant, plus classique, c'est l'idée qu'il faudrait donner plus de place à la concertation et à la participation. Alors, on a noté aussi qu'on est dans un contexte, je l'ai noté hier, on est dans un contexte en France assez peu participatif, en particulier sur la question du patrimoine et les intervenants tout à l'heure qui traite à la fois de la question de l'environnement et du patrimoine. Alors, nous dirons peut-être si j'ai raison ou pas. On a l'impression que toute une série de choses qui sont possibles sur les questions environnementales ne sont pas vraiment possibles ou qui sont considérées nécessaires en termes de droit à l'information, de droit au recours, etc. sur la question environnementale ne sont pas forcément, n'existent pas en tout cas de la même façon sur la question patrimoniale. Les acteurs locaux, par contre, semblent très conscients de l'idée de l'importance de renforcer la concertation, c'est-à-dire l'idée c'est une volonté qui semble partagée donc par les différents acteurs, qu'il faudrait donner plus de place à la qualité ou à la construction de la qualité des relations entre les acteurs publics parties prenantes de l'action patrimoniale. Différentes modalités formelles ou informelles ont été mises en œuvre dans les différentes situations donc que l'on a analysées pour construire des espaces d'échange ou de production de référentiels communs ou d'habitudes de travail ensemble. Dans certains cas, le PLU peut constituer un moment de formalisation de ces instances par la création d'une commission ad hoc, mais qui peut exister aussi d'une autre façon. Ces dispositifs sont construits donc dans l'objectif de fluidifier les relations entre les acteurs publics, pour mieux résister aussi. Enfin, ils peuvent avoir la capacité de faire que cette coalition d'acteurs publics peut mieux résister à des controverses portées par d'autres acteurs locaux. Dans certains cas, ces groupes peuvent évoluer vers des véritables coalitions de projets ou des formes de gouvernance participative en s'ouvrant à des acteurs associatifs ou à des acteurs économiques. Et dans certains cas, on a une volonté d'institutionnaliser les relations entre acteurs qui semblent se généraliser, en tout cas de donner une certaine pérennité à ces échanges. Le dernier élément que je voudrais signaler, ce serait peut-être de mieux connecter la réalisation des documents d'urbanisme avec d'autres initiatives collectives locales qui ont déjà été évoquées par Vincent Véchambre ici, c'est-à-dire l'idée que d'un côté, on aurait un contexte institutionnel assez peu participatif, ouvrant peu de prise à la participation malgré des expérimentations, malgré des cas locaux, mais que par ailleurs, en parallèle, avec une autre temporalité, se multiplient donc des actions d'associations, des actions de groupes culturels, souvent d'ailleurs, qui mettent en place des inventaires, du travail sur la mémoire des quartiers, sur une mémoire qui n'est pas forcément ancrée que forcément dans des monuments, mais qui développe donc tout un travail patrimonial au niveau local, à la fois de connaissances qui développent qui débouche sur des demandes de reconnaissance et qui peut-être donc une sortie où il y aurait intérêt à essayer de mieux connecter. Alors c'est compliqué pour des questions de temporalité et de procédure, mais peut-être de mieux connecter ou de peut-être mieux organiser les échanges avec les acteurs de cette auto-organisation patrimoniale au niveau local, pourrait-on dire, et les dispositifs institutionnels. Et là, on pourrait avoir effectivement un débat, pas simplement avec un grand public convié à une participation, à des espaces de participation qui sont souvent vides, mais avec le public intéressé portant la demande patrimoniale et portant l'intérêt patrimonial local dans des dispositifs de coproduction. Et j'arrêterai ici pour laisser la place à Pascal Planchet, qui va donc traiter la question du rôle de la place du juge et du contentieux.
Merci Patrice. Moi je vous propose de regarder d'un petit peu plus près certaines des controverses, certains des conflits qui viennent d'être évoqués, les conflits dont le règlement est confié au juge. Un mot de méthode sur la méthode que j'ai suivie pour construire cette communication. J'ai tout simplement essayé de rassembler les décisions de justice intéressantes qui concernaient le plus patrimonial. Il n'y en a pas en fait énormément. On va dire que sur les 10 dernières années, on peut en compter au plus une trentaine, sans faire référence aux jugements de tribunaux administratifs qui sont un peu insaisissables. Donc une trentaine de décisions du Conseil d'État ou de cours administratifs d'appel. Donc je préviens tout de suite ceux qui sont un peu allergiques à la jurisprudence qu'ils vont souffrir pendant quelques minutes. Je dois aussi dire très honnêtement que dans le cadre de notre recherche, le contentieux est resté assez discret. Dans aucun site étudié, le recours au juge n'a semblé peser, avoir une influence sur les stratégies locales. Alors, évidemment, à une exception près, Angers, avec ce fameux jugement d'annulation du PLU, partiel, enfin, annulation totale, mais une partie du PLU d'Angers-Loire-Métropole en 2019, qui a largement, ça a été dit à plusieurs reprises, participé à relancer, développer la réflexion patrimoniale. Pour autant, ce jugement contesté, non contesté en appel d'ailleurs, est resté assez isolé. Depuis 10 ans, aucun PLU n'a été annulé en totalité pour un motif patrimonial. Et il faut dire que ce jugement est porteur d'une certaine ambiguïté. Et donc, je crois que c'est important, intéressant de le relativiser, j'allais dire de le désacraliser un petit peu. Le tribunal avait reproché au rapport de présentation, c'est vrai, d'être insuffisant sur les questions de patrimoine bâti, avec un repérage simplement et assez léger de 6 quartiers, alors que l'association requérante avait bien démontré que le patrimoine était beaucoup plus riche. Mais, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, ce n'était pas là la principale cause d'annulation. Le juge avait surtout reproché au document de remplacer la protection espace boisé classé par une protection patrimoniale ordinaire, c'est-à-dire par la protection patrimoniale dont on parle depuis hier. Ce qui fait que, en fait, le tribunal avait douté de la capacité du PLU à préserver efficacement les biens identifiés comme ayant une valeur patrimoniale. Et c'est là où je crois que ce jugement, il est assez ambivalent. C'est-à-dire qu'il exprime tout à la fois une prise de conscience par le juge de la dimension patrimoniale du PLU, mais il exprime aussi les limites de l'action du juge. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que 10 ans plus tard, eh bien, la jurisprudence, elle reste tout aussi ambivalente, tout aussi ambiguë, elle reste dans cette sorte d'entre-deux. Le juge a consacré le PLU comme un outil à part entière de protection du patrimoine, mais sans faire preuve d'un enthousiasme démesuré, en restant assez méfiant, en restant sur ses gardes vis-à-vis de cet outil auquel il accorde un crédit limité, qui comprend d'ailleurs pas forcément toujours bien. Alors, donc, sur d'abord la partie consécration. Cette consécration, il faut bien le dire, elle ne résulte d'aucune décision de principe, d'aucun grand arrêt du Conseil d'État. Il faut plutôt la lire, presque la deviner, dans un ensemble de prises de position du juge favorable. Alors, favorable à la fois, je dirais, de manière générale, au développement du contenu patrimonial, du contenu paysager aussi du PLU, et favorable aussi à l'utilisation de ce mécanisme de repérage, d'identification des biens ou des ensembles patrimoniaux. Alors, d'abord sur le général, quelques décisions peuvent être interprétées comme une sorte d'encouragement au développement du plus patrimonial. Je dois dire qu'il faut faire quand même preuve d'un peu d'imagination pour les trouver. La plus significative, à mon sens, reste celle prise par le Conseil d'État en 2005, un arrêt société Bouygues Télécom, qui est confirmé 10 ans plus tard par le fameux arrêt sur la Samaritaine. Cette jurisprudence, vous le savez peut-être, elle porte sur le célèbre article du Code de l'urbanisme qui exige que les constructions se soient bien insérées dans leur environnement et ne portent pas atteinte aux perspectives monumentales. Donc, c'est l'article aujourd'hui codifié, R111-27. Et on a longtemps pensé que cette disposition s'appliquait partout, s'appliquait sur tout le territoire, puisqu'elle relève ce que les juristes appellent les dispositions d'ordre public du RNU. Mais le juge l'a démenti en estimant que la légalité d'une autorisation d'urbanisme devait s'apprécier uniquement au regard des dispositions architecturales, patrimoniales, paysagères du PLU, lorsque ces dispositions du PLU comportaient, c'est la formule qu'il utilise, des exigences qui ne sont pas moindres que celles du Code de l'urbanisme. Donc en langage contentieux, ça veut dire que l'invocation du règlement national d'urbanisme est inopérante pour le juge, pour peu que la réglementation locale comporte des garanties au moins égales à celles de la réglementation nationale. Alors, cette jurisprudence, elle a parfois été décrite comme une régression des contraintes relatives à la bonne insertion des constructions dans leur environnement, donc d'une certaine façon une régression pour la protection du patrimoine, mais il n'en reste pas moins que c'est une jurisprudence qui témoigne de la confiance du juge vis-à-vis du PLU, vis-à-vis du contenu du PLU. Ce que dit le juge en substance, c'est qu'il appartient au PLU, aux auteurs du PLU, de prendre leurs responsabilités, de prendre ses responsabilités, et donc de traiter pleinement les questions patrimoniales, paysagères, architecturales. C'est à lui, c'est au PLU de faire des choix, de les assumer de façon à ce que la question patrimoniale ne se règle pas au coup par coup à l'occasion de conflits à l'égard des PLU ou à l'égard des permis de construire. Alors, il y a une autre position jurisprudentielle qui illustre aussi cette volonté du juge de donner aux planificateurs locaux les moyens de leurs ambitions patrimoniales. Elle concerne l'incontournable question des matériaux. La preuve qu'elle est incontournable, c'est que Arnaud l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est une question qui se pose en des termes juridiques assez simples. Hein. Les PLU peuvent-ils comporter des exigences concernant les matériaux, sachant que le Code de l'urbanisme comporte des dispositions permettant une habilitation à réglementer l'aspect des constructions, à réglementer les caractéristiques architecturales, mais rien de très explicite sur les matériaux. Et cette possibilité, cette opportunité de réglementer les matériaux, elle est d'autant plus discutée que les textes sur les PSMV et aujourd'hui sur les PVAP comportent une habilitation expresse à introduire une réglementation dans ces documents sur les matériaux. Bon, alors est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas ? Arnaud a dit qu'on pouvait pas, moi je dirais qu'on pouvait, qu'on peut. Alors il y a quand même une décision, une seule, hein, bon, de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a pris une position quand même assez, très ferme sur la question, en disant que les PLU pouvaient traiter de la question des matériaux. Et jusqu'à présent, cette décision, elle n'a jamais été contredite par aucune autre. Je rappellerai aussi que c'est à peu près la moitié, enfin c'est très difficile de donner des proportions exactes, mais on va dire entre 50 et 80% des PLU qui comportent des obligations de matériaux. Et puis, je dirais aussi que c'est quotidiennement que le juge est appelé à faire application de ces dispositions des PLU qui portent sur les matériaux. Alors c'est vrai que si ces dispositions n'ont pas été contestées, ça ne veut pas dire que le juge, il ne faut pas déduire tout ce contentieux que le juge permet de réglementer les matériaux. Mais enfin bon, moi je pense quand même qu'il y a une position plutôt favorable du juge sur cette question-là. Et puis plus ponctuellement, on peut aussi percevoir un encouragement du juge au renforcement du contenu patrimonial dans une affaire. Alors c'est qu'une affaire, mais elle est intéressante. Elle concerne le conseil départemental de Loire-Atlantique qui avait décidé d'édifier un bâtiment aux formes assez contemporaines dans la cour du château médiéval d'Anceny, château classé monument historique. Et là, la cour administrative d'appel, ça dira peut-être quelque chose aux Nantais s'il y en a parmi vous, a rendu donc un arrêt 2014 qui avait reconnu l'illégalité du PLU au motif que le règlement de la zone, c'était une zone N en l'occurrence, ne permettait pas d'assurer correctement l'insertion des constructions dans leur environnement. Ce qui signifie que pour le juge, dans cette affaire, l'existence d'une protection au titre des abords, puisque bien sûr le monument historique générait une protection au titre des abords, eh bien cette protection, elle ne dispense pas le PLU de traiter de la question de l'insertion des constructions. Le PLU ne doit pas botter en touche sous prétexte qu'on est dans une zone des abords. Et donc le juge a été jusqu'à considérer qu'il fallait que le PLU prenne ses responsabilités dans ce site. Alors, je propose maintenant de zoomer un petit peu plus sur la mise en œuvre du fameux article L151-19. Alors là aussi, la jurisprudence n'est pas extraordinairement abondante, mais quelques décisions sont intéressantes et ces décisions, elles laissent entrevoir eh bien, la liberté dont le juge entend faire bénéficier les autorités locales dans la mise en œuvre de cette disposition. Cette liberté, elle s'exprime d'abord dans la variété des biens susceptibles d'être protégés, ce qui va d'ailleurs dans le sens des textes, puisque les textes n'énumèrent pas les biens susceptibles, mais renvoient simplement aux intérêts paysagers, architecturaux, etc., d'histoire des biens susceptibles d'être protégés. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a admis, c'est un arrêt récent de 2018, qu'un PLU pouvait protéger des jardins situés dans une zone tampon entre un espace urbain et un espace agricole au motif que ces jardins participaient à la qualité visuelle et au cadre de vie agréable, nous dit le juge. Alors, c'est peut-être pas très original, mais ce qui est quand même remarquable dans cet arrêt, c'est que les jardins en question n'étaient pas visibles depuis l'espace public. Certains jardins n'étaient pas visibles, et c'était un motif du recours. Le juge l'écarte en disant, bon, la servitude patrimoniale, elle peut s'appliquer à des biens qui ne sont pas nécessairement visibles depuis l'espace public. C'est aussi le patrimoine social, industriel, qui a eu les faveurs du juge. Par exemple, dans un arrêt, là aussi, 2018, j'ai volontairement pris des arrêts très récents, mais c'est aussi parce que la jurisprudence, ces dernières années, est montée en puissance. Il y a beaucoup plus d'arrêts 2017-2018 que dans les années antérieures. Donc, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé la légalité de la protection par une commune qui se situe dans les abords de Lyon, à Grigny, la protection de la rotonde ferroviaire de l'ancienne gare de triage de cette commune. Et donc, dans cet arrêt, la Cour relève l'intérêt architectural et mémoriel du bien en retenant que l'activité ferroviaire avait tenu un rôle très important dans l'activité économique de la commune. Cette liberté, elle se manifeste aussi, elle s'exprime dans le choix des éléments à protéger relevant d'un même ensemble. Alors, bien sûr, le juge accepte de contrôler les décisions de retenir ou de ne pas retenir des biens sur la fameuse liste des éléments protégés. Il le fait depuis, on a des arrêts qui datent d'une dizaine d'années, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, par exemple, de 2009, qui exerçait déjà ce contrôle. Mais ce contrôle, c'est un contrôle, bien sûr, mais un contrôle de la fameuse erreur manifeste d'appréciation qui, moi, en tout cas, qui a priori n'a jamais conduit le juge à imposer la protection d'un élément que les auteurs du PLU n'auraient pas voulu retenir. On n'a pas d'arrêt dans ce sens. Le juge est aussi attentif à la cohérence du document. On en a un petit peu parlé hier, en particulier de la cohérence entre les mesures de protection prévues par le règlement et les orientations du PADD. Mais là encore, s'il fait ce contrôle, ce n'est jamais pour contrarier les choix patrimoniaux des élus pour imposer ses propres choix. On peut en avoir une illustration dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille de 2018, où le juge rapproche les objectifs d'un PLU, en l'occurrence mettre en valeur des écarts identitaires par la préservation de bâtiments agricoles. Il rapproche cet objectif de la liste du patrimoine protégé par la commune, liste qui comportait un certain nombre de fermes, 8 fermes, et au final, la Cour, saisie par une association qui voulait faire protéger une ferme qui n'avait pas été retenue dans la liste, eh bien, rejette le recours en considérant qu'il y avait là une liberté d'appréciation de la commune qui n'avait pas à être discutée au contentieux. La même liberté se retrouve dans l'écriture du règlement. Alors, là aussi, quelques exemples rapides. La Cour administrative d'appel de Nancy, 2018, un arrêt commune de Gueux. Bon, je ne donne pas le nom tous les arrêts, ça serait un peu fastidieux. Un arrêt qui a consacré le fait que la préservation par le PLU d'un élément patrimonial ne nécessite pas forcément une fiche descriptive, une fameuse fiche descriptive. Donc, on peut protéger sans fiche descriptive. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge d'appel de Nancy. Autre exemple de liberté d'écriture, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, qui a, toujours en 2018, ce sont des arrêts différents, qui a récemment donc, qui a estimé qu'une commune pouvait, au titre du L151-19, mettre en place des cônes de vue. Des cônes de vue. Alors, on me dirait, tout le monde le fait, ou il y a beaucoup de PLU, c'est pas, tout ça n'est pas très original. Sauf que jusqu'à présent, enfin, en tout cas jusqu'à la réforme, jusqu'à la modernisation du PLU, quand on regardait dans le code de l'urbanisme, eh bien, on ne trouvait pas d'habilitation très claire pour instituer des cônes de vue ou pour instituer ce que certains PLU appellent les faisceaux de vue. Aujourd'hui, tout ça est réglé puisque il y a un article R151-39 pour ceux qui seraient intéressés à cette question qui donne une habilitation à ces cônes de vue. Donc, vous voyez, la dimension patrimoniale du PLU, c'est une réalité que le juge non seulement n'ignore plus, mais qu'il participe à faire vivre, qu'il participe à consolider par une jurisprudence plutôt favorable à ce que j'appellerais une utilisation quotidienne, plutôt extensive de l'outil. Mais, bon, ça c'est qu'un revers des choses. Il y a un autre revers dans cette médaille. Il y a d'autres solutions qui montrent que le juge ne se départit pas d'une certaine réserve, d'une certaine méfiance vis-à-vis du dispositif. On a l'impression que le juge cherche à contenir les excès d'un dispositif qu'il a pour l'instant du mal à maîtriser. Alors il le fait de deux manières. Il le fait d'abord en évitant que le mécanisme ne déborde des limites des textes, des limites de ce qu'autorise le code de l'urbanisme, et puis il le fait aussi en minorant les effets des protections qui ne bénéficient d'aucune prescription. Alors d'abord sur l'obligation de rester dans la limite des textes, évoquer deux limites. D'abord les limites relatives à la portée des protections. Le juge s'en tient à une jurisprudence que les spécialistes de droit de l'urbanisme connaissent bien, ce qu'on appelle la jurisprudence Lépériade, une jurisprudence de 1986 du Conseil d'État, en vertu de laquelle le PLU ne peut pas modifier le régime des autorisations tel qu'il est prévu par le Code de l'urbanisme. Arnaud y a fait référence tout à l'heure, et on en trouve des traces dans la jurisprudence récente. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Nantes a rappelé à l'ordre en 2016 une commune qui avait prévu dans son PLU de soumettre à autorisation préalable tous les éléments identifiés. Alors que, je vous le rappelle, le code de l'urbanisme se contente de prévoir une simple déclaration préalable pour les travaux portant sur ces éléments identifiés. Donc un PLU ne peut pas, bien sûr, étendre le champ d'application des autorisations d'urbanisme pour des raisons, même pour des bonnes raisons patrimoniales. De même, et c'est ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure, un PLU ne peut pas exiger un avis de l'ABF sur des travaux affectant les biens protégés, que ce soit un avis conforme et même un avis simple. Il y a par exemple un arrêt de décembre 2018 de la Cour administrative de Marseille qui donc constate l'illégalité d'un PLU qui exigeait, alors voilà la formule exacte, elle n'est pas inintéressante, dans certains cas exceptionnels justifiés par l'architecture, la saisine et l'avis favorable de l'ABF sur l'emploi de matériaux par des projets de construction. Bon, je vous laisse imaginer l'insécurité que pouvait créer ce type de disposition qui partait pourtant d'une bonne intention. Alors ça veut dire que les collectivités ne doivent pas se laisser emporter par leur élan patrimonial en instituant des mécanismes de contrôle qui ne seraient pas compatibles avec le régime des autorisations tel qu'il est prévu dans le code de l'urbanisme. Alors ça n'empêche pas les communes ou les intercommunalités de faire fonctionner des procédés de surveillance particuliers pour les travaux sur les biens protégés. Mais il ne faut pas que ces procédés soient prévus dans le PLU. Et en plus, il ne faut pas que ces mécanismes de contrôle ou de surveillance apparaissent comme des formalités obligatoires imposées aux pétitionnaires. Tout ça est assez subtil. Ça veut dire aussi que si un PLU a prévu ce type de disposition, si l'ABF émet un avis et qu'on conteste le permis ne sera pas illégal au motif que l'ABF est intervenu. Bon, tout ça est juridiquement assez subtil. Dans le même ordre d'idée, un PLU ne peut pas exiger des demandeurs d'autorisation, même si on voit ça dans beaucoup de PLU malheureusement, des pièces complémentaires à celles qui sont énumérées par le code de l'urbanisme. Voilà, ces limites que le juge essaye de faire respecter, elles tiennent aussi au caractère facultatif. Pas oublier de le rappeler, le caractère facultatif de la mise en œuvre du L151-19. Si le PLU peut bien sûr identifier des ensembles, des éléments, mais il n'en a pas l'obligation. Il n'en a pas l'obligation. La Cour administrative d'appel de Lyon l'a rappelé en 2017 dans un arrêt, en indiquant très clairement, voilà la formule qu'on trouve dans l'arrêt, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commune serait tenue d'identifier ou de localiser dans le règlement des éléments de son patrimoine. Et dans cette affaire, eh bien, on retrouve en fait une configuration assez semblable à celle du PLU d'Angers il y a 10 ans, avec une commune qui n'avait pas suffisamment nourri son rapport de présentation, mais le préfet était intervenu en amont en lui disant « Attention, dans cette commune, il y a des éléments à identifier ». Donc la commune l'avait fait, et puis ensuite les associations patrimoniales sont montées au créneau en disant « Mais bon, il ne suffit pas qu'on se contente d'inventorier le patrimoine dans le rapport de présentation, il faudrait peut-être en tirer des conséquences réglementaires ». Et c'est là où le juge lui dit « Non, enfin, bon, là c'est le choix des élus, et si les élus ont fait le choix de ne pas identifier, eh bien ça ne représente pas une illégalité ». Alors, pour terminer, quelques mots sur ce que j'ai appelé la situation précaire, ce que j'appellerais la situation précaire des biens sans protection. Cette situation précaire, elle est le résultat d'une prise de position du Conseil d'État, un arrêt de 2015, qui est d'ailleurs quasiment le seul arrêt du Conseil d'État sur ce mécanisme d'identification. L'arrêt se rapporte en fait à la procédure de sursis à statuer. Vous savez, c'est une procédure qui permet aux communes qui élaborent un nouveau PLU de reporter à plus tard, 2 ans au plus, leur décision sur des projets de construction qui risquent d'être en contradiction, de compromettre le futur document. Et donc, dans cette affaire, la Cour administrative d'appel de Marseille, avant l'arrêt du Conseil d'État, avait considéré que le maire d'Antibes avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'utiliser cette procédure, en refusant de sursoir à statuer. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'en fait, le PLU était assez avancé et une délibération du Conseil municipal avait déjà, donc sur ce PLU, avait déjà identifié un certain nombre de biens remarquables, dont le bien immobilier concerné par ce recours. Le Conseil d'État balaye tout ça, il invalide le raisonnement de la Cour, surtout en s'appuyant sur le fait que l'identification ne comportait pas de prescription. Il insiste bien sur cet aspect-là dans son arrêt en disant « Mais bon, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'obligation, notamment de démolition, donc il n'y a pas de raison que le bien ne puisse pas, enfin, que le maire soit tenu de sursoir à statuer ». Alors, bon, c'est un raisonnement qui suggère que l'identification d'un élément patrimonial par le PLU n'est pas en elle-même une véritable protection, puisqu'elle n'a d'effet, c'est en tout cas la position du Conseil d'État, c'est pas une véritable protection parce que ça n'a d'effet que sur le champ d'application des autorisations. Ça ne fait qu'exiger une déclaration préalable ou un permis de démolir en cas de démolition. Mais moi, je trouve cette position très, très critiquable. D'abord parce que les protections dédiées, celles qui viennent les vraies protections, celles qui viennent du code du patrimoine, ne comportent pas toujours des obligations de fond. Elles laissent souvent à l'autorité compétente le soin de déterminer les mesures utiles. Et la première d'entre elles, la protection des monuments historiques. Vous n'avez pas un mot sur comment on doit protéger les monuments historiques. Il n'y a que des obligations procédurales dans le dispositif sur les monuments historiques. Ensuite, l'application du L151-19 n'a pas que pour effet, contrairement à ce que laisse à penser l'arrêt du Conseil d'État, n'a pas que pour effet de soumettre les biens à déclaration préalable ou à permis de démolir. Elle a d'autres conséquences. Elle rend notamment inapplicable un certain nombre de règles, comme par exemple les règles prévu par le code d'urbanisme sur les surdensités ou les règles du code de la construction. Jackie les a évoquées tout à l'heure en matière d'habillage des constructions, d'isolation par l'extérieur. Voilà. Et puis, troisième raison qui me conduit à critiquer ce raisonnement, c'est que je crois qu'il est contraire à la lettre du texte. Enfin, depuis que ces protections existent, elles ont toujours été, depuis que ce dispositif existe, il a toujours été vécu, conçu comme une protection, comme on disait au début, une protection de troisième type, un peu l'expression qu'a réutilisée tout à l'heure Fabrice. Voilà, donc dire aujourd'hui que cette identification n'est pas une protection, ça me semble assez contraire à tout ce qu'on a voulu faire au travers de ce dispositif. C'est pas parce que ces prescriptions sont facultatives, enfin le fait qu'elles soient facultatives, ça marque une souplesse et non pas une faiblesse, à mon avis, de la protection. Bon, il n'empêche que c'est une jurisprudence du Conseil d'État et donc aujourd'hui, le juge administratif l'applique très, très largement. L'absence de prescription est devenue, c'est très clair dans la jurisprudence, un critère d'appréciation de l'intérêt de l'immeuble et donc pour le juge, l'absence de prescription manifeste, que ce soit vrai ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que c'est interprété aujourd'hui, l'intention des autorités locales de ne pas aller jusqu'au bout de leur démarche de préservation. On peut le voir dans un arrêt de la Cour administrative de Marseille, notamment l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui est intervenu après l'arrêt du Conseil d'État, donc sur le même bien en question, l'arrêt de 2015, où la Cour dit que finalement, oui, le bien n'est pas si intéressant que ça. Et ce bien avait pourtant fait l'objet, enfin, il avait fait l'objet d'un avis de l'ABF qui avait confirmé le faible intérêt patrimonial du bien. Mais parfois, l'intervention de l'ABF, lorsqu'elle est favorable au bien, ne suffit pas pour empêcher la démolition. Bon, il y a un arrêt notamment de la Cour administrative d'appel de Lyon à propos d'une maison du 19e siècle à Chambéry, qui avait pourtant fait l'objet d'un âpre combat associatif, mais donc un combat perdu. Bon, voilà. Pour autant, la jurisprudence n'est pas complètement uniforme sur cette question. Le fait que le PLU ne comporte pas d'interdiction de démolir n'empêche pas, dans certaines affaires, le juge de s'opposer à un projet de démolition. Je l'ai par exemple constaté dans un arrêt de 2015, là encore, de la Cour administrative d'appel de Lyon, à propos d'une villa à Évian-les-Bains qui témoignait de la villégiature thermale de luxe de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Voilà ce que nous explique la Cour, qui contribue à la renommée de la ville et au développement du tourisme. Donc, malgré l'absence de prescription, le juge s'est montré favorable au refus de démolition. Et puis, dans l'affaire que j'ai évoquée tout à l'heure sur la rotonde ferroviaire, là aussi, la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a peut-être une sensibilité patrimoniale un peu plus affirmée que d'autres, je ne sais pas, mais là aussi, a validé le refus du maire de délivrer un permis de démolir au promoteur qui avait racheté le bâtiment pour faire une opération de logement. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que le juge s'appuie aussi sur l'OAP. L'OAP, il n'y avait pas de prescription, mais il y avait quand même une OAP assez, assez significative qui expliquait l'intérêt du bien et qui manifestait la volonté de conservation du bien. Donc parfois, les OAP sont utiles. Comment conclure ? Vous voyez que malgré tout, cette jurisprudence, même si on peut en tirer quelques leçons, elle reste fragmentée, elle reste parcellaire, elle reste difficile à lire. C'est plus une mosaïque, pour reprendre le terme de tout à l'heure, qu'un ensemble très cohérent. Et c'est aussi une jurisprudence qui manque de décision de principe pour l'ordonner. Mais pour l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait très peu d'arrêts du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État m'apparaît aujourd'hui pas être un très grand défenseur du patrimoine, et sa jurisprudence montre au contraire qu'il adhère complètement, sans beaucoup de réserve, à ces politiques de renouvellement, d'intensification urbaine qui font pas mal de dégâts dans le patrimoine. Je vous remercie.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions très riches. Je crois que ça a suscité un grand nombre d'interrogations dans la salle, de réactions, de commentaires, de remarques. Pour lancer un peu la chose, si j'essaye un peu d'hierarchiser, encore une fois, ça évoque beaucoup d'éléments dans ce sur quoi je peux travailler aussi, mais je dirais qu'il y a un premier point qui m'a marqué dans ce que vous disiez, vous, Patrice, si je comprends bien, et tu me corrigeras si je tape à côté, mais c'est tu as expliqué que finalement, il y a un vrai décalage entre la manière dont, en particulier dans la loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, on a enfermé le débat sur le PLU patrimonial dans une opposition très manichéenne entre l'État qu'on essaie de rattraper par le col et les collectivités et les communes dont on se pose la question de savoir si on veut vraiment leur donner la compétence de prendre des mesures de protection de patrimoine dans les plans locaux d'urbanisme, alors même qu'en réalité il faudrait exploser la figure de l'État comme la figure de la commune pour l'État, c'est rien, si je comprends bien un peu ce que tu disais, l'État c'est rien en soi, c'est une succession d'autorités. Et ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est l'État qui a la compétence ou la commune, mais c'est de savoir qui, au sein de l'État ou de la commune, et selon quel processus va prendre la décision, effectivement, de protéger tel élément du patrimoine ou pas. Et par un effet un peu domino, ce que tu dis me fait penser que nous, du côté des juristes, on devrait finalement, effectivement, un peu plus faire évoluer le débat pour le sortir de la question de la compétence constitutionnelle. C'est à quelle autorité constitutionnelle qu'il revient, à l'État, à une commune, etc., de prendre la décision, et beaucoup plus de travailler sur les procédures et les processus. Et les gens le sentent intuitivement, et les acteurs professionnels le sentent très bien, d'où le fait que ça reste très marqué dans l'identité professionnelle des ABF, il me semble, je crois qu'il y a des ABF dans la salle, mais que ça a été une vraie révolution lorsque, il me semble que c'était en 97, on a introduit, excuse-moi, lorsqu'en 97 on a introduit l'appel devant le préfet de l'ABF, c'était pas un problème de compétence d'État ou de quelqu'un d'autre, c'était un problème de qui au sein de l'État va prendre la décision, et c'est ça le vrai débat, et qui au sein de la commune va prendre la décision, et c'est là aussi où on a un manque flagrant, et c'est je crois, ça a peut-être été discuté hier d'ailleurs, mais c'est là où la question du PLU patrimonial ouvre sur un gouffre à l'heure actuelle. C'est on pense la commune comme faisant le PLU, mais quelles sont précisément les autorités, les professionnels qui, au sein de la commune, prennent la décision de protéger. Donc, faire clairement évoluer le débat de la question de la compétence à la question des procédures, et on en arrive à ta conclusion, finalement, qui est de dire, si je comprends bien aussi, peut-être que je tire un peu trop par les cheveux, mais qu'on en est dans la formalisation des procédures, ce que tu as appelé la co-construction, à la préhistoire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui sont formalisées sur le plan juridique. Il y a des initiatives qui sont faites par certaines communes pour associer telles associations, tels habitants, etc. Mais qu'au bout du compte, sur le plan du droit, il y a peu de structures formelles qui permettent de clairement faire remonter et donc co-construire effectivement des processus de protection du patrimoine par la voie du plan local d'urbanisme. Ce qui nous amène à un vieux débat, en fait, il me semble qu'on a déjà eu en droit de l'environnement dans les années 80 et 90, qui est finalement la bonne voie pour aller protéger de l'environnement ou du patrimoine. Est-ce que c'est la voie qui consiste à procéduraliser, donc à créer des procédures qui font qu'on va sortir simplement de la question de savoir si c'est l'État ou la commune qui va protéger, mais identifier précisément des processus ultra complexes par lesquels des masses d'individus vont participer à la prise de décision. C'était une des voies historiques de construction du droit de l'environnement. Ou est-ce qu'on va au contraire fondamentaliser ? Fondamentaliser, c'est-à-dire reconnaître des droits subjectifs à des associations, à des individus, quelle que soit la procédure, pour venir effectivement avoir leur mot à dire dans la question patrimoniale. Et finalement, ça, il me semble que peut-être c'est un point que vous avez moins abordé, plutôt que de procéduraliser pour créer des cadres pour la co-construction en matière de PLU patrimonial. Pourquoi est-ce qu'on ne fondamentaliserait pas davantage le débat? C'est finalement la conclusion à laquelle on est arrivé en matière de droit de l'environnement. On a reconnu des droits aux individus, et on se fiche de savoir quelle est la procédure, ce sont des droits, et qu'on va pouvoir défendre devant les juges, à pouvoir effectivement participer. Et ça ouvre la question, évidemment, du droit au patrimoine. Et Pascal, vous avez écrit des choses là-dessus, par exemple, du côté du droit des monuments historiques, avec l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, il me semble, Nantes, c'est ça, sur l'affaire de la Maison du Peuple de Saint-Malo, où finalement une association va arracher à l'État une inscription au titre des monuments historiques parce qu'on a joué de manière très créative le juge contre l'administration des monuments historiques. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression, du côté du plan local d'urbanisme, qu'indépendamment de ce que peut dire le législateur, on a encore plein de possibilités d'arracher sur le plan contentieux des choses aux juges pour que des groupements, des associations, des individus puissent effectivement intervenir dans ce qui seront finalement les choix faits par le plan local d'urbanisme. Donc, à mon avis, on peut procéduraliser, il faut aussi beaucoup plus penser en termes de droits fondamentaux la question patrimoniale, et le PLU peut être, alors ça peut paraître très éloigné, penser d'un côté les droits fondamentaux, le côté un outil technique comme le PLU, mais en réalité on peut croiser les deux débats, et je pense qu'on pourrait de cette manière-là peut-être sortir de la question simplement de quelles vont être exactement les procédures que l'on va formaliser dans la loi pour co-construire les choix de protection. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qui, et là ça s'adresse davantage à Pascal, ce qui me surprend dans toute cette affaire, c'est que au fond, on joue assez peu le juge. C'est ça la conclusion que je retire de vos propos. Alors même qu'on peut tirer beaucoup, par expérience, on le sait, du juge. Quand bien même il est timoré, on arrache des choses qui elles-mêmes vont provoquer des évolutions législatives, etc. Alors même qu'on a un tissu associatif, qu'il s'agisse d'associations de riverains ou d'associations nationales ou locales, très dense en matière de patrimoine et depuis le 19e, eh bien finalement, on va assez peu devant le juge. Alors certes, peut-être parce que le juge est timoré, mais vous l'avez bien montré, c'est pas parce qu'il est timoré que pour autant on n'en obtient rien, tant s'en faut, on obtient des choses, et ça c'est quelque chose qui m'interpelle de manière systématique, c'est d'où vient cette... est-ce que vous avez des éléments d'explication qui pourraient nous éclairer sur cette espèce de crainte d'en arriver devant le juge, alors même que par ailleurs, les revendications patrimoniales, ça s'est exprimé très fortement, par exemple dans la table ronde précédente, sont si fortes. Quel est ce décalage entre ce qui vient des tripes, il faut protéger le patrimoine, et cette décision in fine d'arriver devant le juge pour formaliser juridiquement ce qui effectivement vient des tripes? Voilà les deux interrogations, interpellations que je voulais vous faire. J'en aurai encore d'autres, mais je crois que la salle voudra sans doute intervenir aussi.
Voilà, peut-être, oui, quelques mots sur pourquoi ne va-t-on pas devant le juge, ou y va-t-on très peu quand on regarde quand même la jurisprudence depuis 10 ans, on s'aperçoit quand même qu'il y a peu de victoires. Il y a peu de victoires, il y a beaucoup de défaites, notamment de défaites associatives. Je pense notamment par exemple au contentieux sur la réhabilitation ou le sauvetage, les tentatives de sauvetage des anciens bâtiments occupés par les hôpitaux. Il y a eu beaucoup de restructuration hospitalière ces dernières années, avec des hôpitaux qui ont été désaffectés, des grands centres qui ont été construits. Donc c'est la question de la reconversion de ces hôpitaux s'est souvent posée. Moi, autant de contentieux. Alors il y a parfois eu des reconversions réussies, mais en tout cas, moi j'ai jamais vu un combat associatif sur ces questions-là. Il y en a eu beaucoup qui est parvenu à ses fins et qui a permis de sauver ces bâtiments, souvent du 19e siècle, complètement reconfigurés, mais qui, dans le tissu urbain, avaient encore un sens. Voilà, en tout cas, je sais que dans la région Rhône-Alpes, on a de nombreuses illustrations. Oui, quelques associations sont parvenues à arracher une protection au titre des monuments historiques. Ça existe, mais on les compte sans doute sur les doigts d'une main. On a eu un fameux contentieux à Lyon, je pense qu'il y a une dizaine d'années, enfin, qui concernait plutôt Saint-Étienne, où le tribunal administratif avait annulé un refus de protection au titre des monuments historiques des anciens bâtiments industriels de Manufrance. Donc à Saint-Étienne, bâtiment dont il était prévu de démolir partiellement. Donc le tribunal administratif a finalement annulé la décision, le refus de protéger, sauf que la veille, le bâtiment avait été démoli. Parfois c'est donc les victoires, elles sont difficiles à obtenir et quand il y a une volonté politique forte d'abandonner un bien, les collectivités arrivent toujours à leur fin. Donc,
une façon de guerre lasse. Oui. Il n'y aurait pas plus de contentieux, c'est ça un peu votre...
Oui, je crois. Je crois. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de contestations qui sont pas suffisamment bien argumentées. La particularité du contentieux qui avait été mené à Angers, c'est vrai que ce contentieux, c'est un contentieux de ce point de vue-là exemplaire, où les associations avaient réussi à faire la démonstration. Et ça, eh bien, le juge y est sensible. Mais c'est parce que cette démonstration était faisable, parce qu'il y avait un inventaire, parce qu'il y avait des éléments très concrets pour appuyer le recours. Et quand le juge est face à ce type d'expertise, mais qui sont très rares, là, il a des moyens, il a des arguments, et là, on peut éventuellement obtenir satisfaction. Mais beaucoup de recours ne sont pas souvent argumentés de façon suffisamment solide. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai.
Oui, juste un mot. Donc, est-ce qu'il faut fondamentaliser et parler de droit au patrimoine et faire du plus un élément d'expression du droit au patrimoine. Ce que je disais à la fin sur la question de la coproduction, c'était pas simplement pour dire trouvons des procédures, mais c'était peut-être pour souligner aussi, mais je l'ai peut-être pas suffisamment développé ici, le fait qu'on a l'impression que dans le plus, mais même dans les documents dédiés, etc., qu'il y a une déconnexion ou une procédurisation effectivement de la question patrimoniale et une déconnexion de la question de la mémoire ou la question du patrimoine. On débattait entre nous sur cette idée de quoi le patrimoine est-il le nom, c'est-à-dire Arnaud évoquait l'idée, est-ce qu'il s'agit de gérer la perte d'un certain nombre de choses pendant un temps traditionnel, ce qui effectivement est le contraire de l'effet de cliquet entre parenthèses, mais c'est-à-dire cette idée que on ne parlerait que de procédures de protection de monuments, etc., alors que la littérature, la justification sur cette question-là, la justification, mais aussi les demandes patrimoniales des associations parlent d'autre chose, parlent de groupes patrimoniaux, de liens entre des communautés locales et des biens, de reconnaissance, d'accès au débat pour un certain nombre d'éléments. Alors, est-ce qu'il faut fondamentaliser le patrimoine ou est-ce qu'il faudrait ouvrir, mais plus des choses qui s'expriment en termes de droit à la ville, de droit à débat sur l'urbanisme, etc. Et alors là, peut-être qu'on l'a peu évoqué ici. Le patrimoine, par contre, est une sortie intéressante pour des activités de participation autour du plus, dans lequel souvent on en arrive à débattre du patrimoine, en fait. L'ouverture de la case de débat, elle n'est pas spécifiquement sur la question du patrimoine. Puisqu'en fait, si on parle de patrimoine, on parle de l'existant, on parle de cadre de vie, on parle de ce qu'on veut garder, etc. Donc peut-être que la question, elle est d'ouvrir le débat sur l'acte même de l'urbanisme, en fait. Mais bon, il y a des exemples dans la salle, j'imagine, d'innovation.